création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. C'est en 1965, une jeune femme, belle, vit entre cours de français, théâtre, mari dévoré par une thèse et cinq enfants gardés le plus souvent par une jeune fille au père, Dorothée. Dans cette famille bourgeoise, surgit, comme dans Théorème, un jeune homme. Dans un premier temps, seule, la mère est dévastée. Quand ce documentaire commence, la jeune femme a 85 ans. Et c'est toute la famille qui se remémore cette histoire où la passion aveuglait autant qu'elle révélait. L'innocence de l'enfance pour l'une, une incartade pour l'autre, un je m'en foutisme affiché, un scandale aussi. Et en tous les cas, le même mystère. Regard croisé sur une mère en cavale, par Théo Boulanger et Gilles Mardy-Rossian, création On Air.
Alors, ben j'ai emmené Pierre. Et on était logés dans un internat. Donc c'était une collectivité, il y avait un restaurant, il y avait des chambres d'étudiants. Et ce qui était curieux, c'est que il y avait là aussi une espèce de liberté extraordinaire. On pouvait recevoir qui on voulait. Et alors moi, je l'avais fait passer pour mon frère, pour mon petit frère. Et lui, il avait trouvé un job d'été dans une usine. Il avait loué une voiture, puis il avait un peu d'argent quand même. Il avait une petite Renault. Et puis, il finissait vers 5 heures, il venait me retrouver. Et alors, on se baladait, on allait en voiture partout, on a visité, on a fait du tourisme. Il est allé me présenter à sa famille bretonne. Et il m'a emmené chez ces gens, j'ai logé dans la ferme avec lui, dans la même chambre. Et alors, il disait, c'est ma fiancée. Personne n'a rien dit. Et ça a été un mois extraordinaire. J'avais vraiment oublié complètement que j'avais un mari et cinq enfants. Complètement oublié.
Ça commence.
Donc moi, quand je pense à...
Donc...
Tu veux savoir quoi ?
Cette aventure, je m'en souviens.
Les premiers souvenirs,
c'était en 1965. J'étais belle, j'étais jeune, j'étais active, tout le monde m'aimait, j'étais très 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 adorée de tout le monde. Je donnais des fêtes et j'adorais ça. On dansait. Du champagne, un peu extravagant. J'aimais beaucoup ça. Et Bernard, pendant ce temps-là, il était très très content de me voir contente, et les enfants aussi. Et lui, il faisait sa thèse, il finissait sa thèse. Donc il était très très souvent en bibliothèque, avec ses livres, avec sa thèse, etc.
Et il y avait des fêtes, de temps en temps, avec ses élèves. On faisait du théâtre et tout. Et moi, j'étais un peu branchée avec ses collègues. Je jouais un petit peu dans une pièce de théâtre et tout ça. Et donc, j'adorais ces fêtes. Donc, c'était rigolo. C'est des grands de troisième, donc ils devaient avoir 14 ans. Donc là, il y avait ce Pierre tout jeune, qui était très sympa. C'était 68, l'ambiance et tout ça. Enfin, c'était le début des années 70. Et donc, il fumait, il buvait, il faisait la fiesta avec des grandes marins, des marinières. Voilà, j'ai des jolis petits souvenirs comme ça. Et donc, lui, c'était un jeune grand, dégingandé, très blanc, très pâle. Et je trouve qu'il ressemblait pas mal à papa, en plus jeune. Et sympa, comme un peu tous, et fascinant.
J'ai retrouvé des élèves qui avaient, grâce, enfin, sur, avec mon influence, avec tout ce qu'on avait fait comme travail de diction, de théâtre, de danse, parce qu'on faisait beaucoup de danse, de chant. Bon. Ils étaient très tentés, ils continuaient à faire du théâtre. Et eux, ils avaient 18 ans. 18 ans, ils étaient en terminale au lycée Joffre. Donc, je retrouve ces gens, ces garçons, filles aussi d'ailleurs, et on avait décidé de monter une pièce. C'était Ionesco, c'était la leçon de Ionesco. Alors, il y a l'histoire d'une gamine qui vient prendre des cours de particulier chez un professeur étrange, et il y a trois personnages, il y a une bonne qui surveille le professeur, et il tue ses élèves. Bon. Et alors... J'avais imaginé de renverser la vapeur, c'est-à-dire que c'était moi le professeur, et je tuais un élève garçon. Voilà. Et c'est là que j'ai retrouvé un garçon qui était très 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 doué, très pas très beau, très un visage à la Cézanne, très découpé, très 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 bien dessiné, tu vois, et très très grand, grand, maigre, très très bien. Bon. Donc on répétait cette pièce, ça l'amusait énormément, et il venait chez moi, et chez moi il y avait les enfants qui étaient pratiquement, dont je m'occupais pas beaucoup, parce qu'il y avait Dorothée qui faisait tout le travail, femme de ménage qui faisait la cuisine, etc., Bernard qui était dans ses bouquins, et j'étais un peu seule.
J'avais eu la sensation que la nuit était différente, comme si je m'en apercevais pour la première fois. Et comme si je voyais les choses différemment. Parce que dans la journée, tout bouge, il y avait plein de gens dans la maison. Et là, j'étais seule et j'avais l'impression d'un sentiment de solitude dans cette nuit-là. Où j'ai appelé maman.
Était parti en vacances à Port-Grimaud et papa il devait repartir à Paris ou je sais pas où. Il était absent pendant quelques jours et je me souviens très bien que maman nous disait allez les enfants allez vous coucher. Je crois que c'est Cécile et Marianne qui sont sorties et nous Delphine et moi on est plus petites, on voulait faire comme elles. Après on les a retrouvées sur le parking et puis on a vu la scène un peu. Ça m'est jamais arrivé de me réveiller la nuit comme ça. Et je sais pas pourquoi, je me suis réveillée. Et je suis descendue en bas et j'ai pensé à maman et j'ai appelé maman. Et je l'ai appelée.
«
je disais, maman. Et je trouvais que la maison avait une drôle de sonorité. Je sais pas pourquoi, j'étais dans un état bizarre. Je trouvais que c'était vide, la maison était vide, et j'avais l'impression d'être toute seule dans la maison. Et je vais sur la petite terrasse, où il y a l'eau, il y avait les chaises longues, le petit bateau, et puis je reste pendant un moment sur la terrasse. Tout est bizarre, il y a des trucs qui sont étranges et je comprenais pas quoi.
Alors après, nous, Delphine et moi, on était plus petites, donc on était un petit peu innocentes, un petit peu...
J'ai fait le tour de la maison, et tout d'un coup, voilà. Et puis après, j'ai appelé maman, j'ai dit « Maman, maman !»
Plus enfant que Cécile, qui était déjà adolescente et tout.
Et dehors, ça donnait bon, sur une route, mais vraiment très peu.
On voulait sortir comme les grandes, dehors, près du port...
Très peu fréquenté, avec un parking. Tout le long, il y avait des voitures. Et j'ai fait tout le long dans cette avenue, dans cette petite route.
Et on voulait aller vers ce parking près du port. Et puis, il me semblait que Cécile, elle nous empêchait d'y aller. Elle ne voulait pas qu'on y aille. Je dis, mais non, on veut y aller et tout.
Et je suis arrivée sur un parking, sur un autre petit parking. Il y avait un petit peu plus de voitures.
Tu vois, elle nous empêchait pour pas qu'on voit.
Et puis tout d'un coup, je vois une voiture.
Maman dans une voiture, une deux chevaux, je sais pas quoi.
Comme une 4L, et on pouvait dormir dedans, derrière, un peu allongé comme ça.
Mais je crois que Cécile avait déjà vu, avant nous, que mamie attendait Pierre dans une voiture, dans un parking, près de l'hôtel du port de Grimaud. Bon, bref.
Et je la vois bouger la voiture. Don. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai dit, je comprenais pas. Je l'ai regardé pendant un moment bouger. Et je me suis approchée de la voiture. Et je disais, maman? Maman? Maman, maman? Et je regardais la voiture. Et tout d'un coup, la voiture, elle a plus bougé. Vraiment, je comprenais pas ce que c'était. J'ai l'impression d'être un truc surréaliste. Et après, j'ai senti qu'il fallait plus que j'appelle et que je... J'ai senti, sans savoir ce que c'est, j'ai senti qu'il fallait que je rentre à la maison. Et j'ai plus appelé maman et je suis repartie me coucher.
Et puis, il y a eu cet accident, justement, un jour où on appelle et puis il y a... Maman a eu un accident. C'était un carrefour qui était un peu plus loin de là où on était, à Villa Marguerite. Et on arrive avec mon père et puis une de mes sœurs, je crois. Et la voiture était cassée et ma mère était pas... Alors ma mère était là, elle souffrait, elle avait mal aux genoux. Et dans les gens qui étaient témoins, ils disent « Oui, il y avait un homme qui était là et qui est parti en courant. » Après, à réflexion, je pense que c'était Pierre. Ils étaient ensemble et ça se trouve, c'était même lui qui conduisait. Et il est parti pour pas qu'on le trouve. Donc c'est un homme en fuite, alors peut-être qu'il était blessé aussi, mais bon, s'il conduisait, était responsable de l'accident.
Mais, de fil en aiguille, je me suis attachée à ce garçon. Et, rétrospectivement, j'étais folle. Par exemple, j'avais, après mon accident de voiture, j'avais plus une petite Fiat, mais une Austin. Alors Bernard avait sa voiture, moi ma voiture. Bon. Alors, je partais à la plage, etc., avec ce garçon, et qui était fils d'un professeur d'université en allemand. Sa mère était professeure de lycée, qui était une de mes collègues, quand j'étais encore au lycée. Il avait 3 enfants, c'était le plus jeune. Les aînés étaient des filles. Et puis, il mettait un point d'honneur, quand les enfants étaient grands, à leur offrir un studio. Alors, les filles avaient chacune un studio, et Pierre, il avait aussi son studio, à 18 ans. Bon, alors, évidemment, comme il était très, 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 très sexuellement avancé et gourmand, eh ben, mon cher, je vivais, c'était l'adultère, comme on dit, c'est pas tout à fait, mais dans une espèce de gaieté et d'innocence fabuleuse. Évidemment, je disais rien à Bernard, mais, et lui, il me demandait rien, mais ça se faisait comme ça, voilà. Alors, avant d'aller travailler, je passais chez lui, on allait au cinéma ensemble, on faisait l'amour, je rentrais chez moi, enfin, c'était incroyable, incroyable.
Viens voir, j'ai trouvé quelque chose dans l'armoire de maman. Viens voir, viens voir. Vraiment un secret, on attendait qu'elle soit pas là, etc. Alors on va dans la chambre, on va dans leur chambre. Et j'allais pas souvent dans leur chambre, je me souviens. Et au fond de l'armoire, derrière les bas, les culottes, les soutiens-gorge et tout, elle me sort une boîte, et dans cette boîte, des photos. Et c'était des photos porno. Un sexe d'homme qui rentrait dans un sexe de femme, et du coup, vu de près, et je comprenais pas ce c'était, je comprenais, je comme c'était un peu abstrait, puis j'avais jamais vu ça, et je comprenais pas. Et elle me faisait, t'as vu, comme, oh, t'as vu, et moi j'ai dit, mais quoi, je voyais rien. Je dis, mais c'est quoi, je crois qu'il y en avait 2 ou 3 comme ça, et je comprenais pas. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, et alors qu'est-ce que ça fait, ça, pourquoi tu... Je comprenais pas pourquoi elle me montrait ça, qu'est-ce qu'il fallait voir, qu'est-ce qu'il fallait en conclure. J'ai l'impression qu'il fallait en conclure un gros truc, mais j'avais pas compris quoi, et je comprenais pas. Et c'est alors après genre, t'as vu, vite elle a rangé les photos et tout ça, vite on est parti. J'avais l'impression d'avoir fait une bêtise, d'avoir vu un truc, le truc, mais sans vraiment comprendre quoi. Et c'est un petit peu plus tard que j'ai compris que c'était des trucs liés au sexe, et que c'était un amant, et etc.
Et moi, je dis non, c'est pas possible, et puis ça m'intéresse pas, je m'en fous. Cécile et Sophie, qui s'étaient aperçues du truc et tout ça, me disent, si, mais il y a la preuve. Et elle regarde, il y avait une lettre que j'ai, dont j'ai un souvenir très brûlant, mais j'ai même pas osé la lire, ni voulu la lire. Et il y avait une photo aussi. Une photo un peu bizarre, et que j'ai carrément effacer de ma mémoire parce que c'était trop choquant. Donc je me souviens très bien, mais je ne dirais pas comment elle était. Mais ça m'a fait trop d'effet. Et malgré ces preuves données par mes sœurs, un peu cancanières et tout ça, viens voir, on a découvert un secret et tout ça. Je disais, mais non, mais moi, cette histoire ne m'intéresse pas.
Par exemple, un été, je faisais des j'ai participé à des stages de formation de professeurs. Et il y a eu un été un stage à Saint-Nazaire pendant un mois. Alors, ben, j'ai emmené Pierre. Donc j'étais sa fiancée, j'étais sa grande sœur. J'avais vraiment oublié complètement que j'avais un mari et 5 enfants. Et complètement. Que j'avais une mère, une grand-mère, un grand-père à Montpellier. Complètement oublié. Et puis, le mois finissant, on m'attendait quand même, mes enfants et mon mari, et Gorothée, et ma mère, et ma grand-mère, et mon grand-père, à Cutura, la maison de vacances. Alors, le retour, ça a été un drame, vraiment. C'était le gros mélo, le gros mélo. Parce qu'on a, traversé la France, comme ça. Alors, moi, j'avais de l'argent. Je comptais pas. Bah, bon. Alors, on s'arrêtait dans les hôtels, les restaurants, hein. Donc, on avait décidé de se séparer à Mouchard. À Mouchard, je prenais mon train. Et lui, il rentrait avec sa gabarde à Montpellier, chez ses parents. Oh, ça a été... Là, vraiment, j'ai beaucoup souffert, franchement. C'était un déchirement effroyable. La dernière nuit à l'hôtel. Eh ben, mon cher, je suis montée dans mon train. Et lui, il était bouleversé. Mais je viendrai te voir dans le Jura. Je lui dis, comment tu vas faire? Si, je vais revenir. Je vais chez mes parents et puis je reviens. Bon, alors, moi, j'arrive à Futura. Tranquille, sans problème. On fait la fête, on chante, etc. On va à la piscine, on va au lac. On fait des fondues, on fait du tourisme. Tranquille, j'ai vaincu tout ça comme si j'avais 2 personnalités. Quand j'étais avec Pierre et quand j'étais avec Bernard. C'est très étrange, vraiment. Alors, je ne veux pas donner de nom à ce... Je ne veux pas prononcer le nom « j'aimais 2 hommes » ou « je choisissais pas entre les 2 ». Non, c'était même pas ça. C'était, j'étais très très bien chez moi, avec mes enfants. J'étais très très bien avec Pierre.
Ouais, j'avais l'impression que papa, il était vraiment l'ombre de lui-même, comme il aurait dit. Et que tout flottait un peu dans l'air, l'ambiance dans la famille. Tout était très bizarre. Tout était calme, comme si tout le monde marchait sur du coton. Un peu comme si on était un peu désorientés tous.
Bon, et puis alors, moi je pensais que ça n'aurait pas de fin. Alors ? Nous revoilà à Montpellier, où je reprends mon bureau à l'université. Un très très beau bureau, j'avais une vue sur la mer, c'était très très beau.
Et moi, je me souviens aussi que j'étais contente en même temps. J'étais contente qu'il se passait quelque chose dans la maison. Je me disais, enfin, j'ai l'impression que l'ambiance de la maison, c'était toujours pareil, on vivait toujours la même chose.
Lui, il réussit à son baccalauréat. Et il s'inscrit à la fac en licence d'allemand. Donc on se trouvait à la fac en même temps. Et son studio était à côté de l'université. Alors je faisais mes cours, j'allais chez Pierre, nanana.
Et je pense que c'était que là on avait un rapport, je voyais vraiment que mon père et ma mère, il se passait quelque chose. Alors qu'avant, j'ai l'impression qu'il ne se passait rien, qu'ils étaient absents. Comme si on avait vécu dans leur que j'avais vécu dans leur absence et que là cet événement me les faisait voir Ils avaient pris de l'importance. Il se passait quelque chose. Je voyais ma mère qui me parlait. Je voyais mon père qui pleurait. Et comme si j'étais contente de cet événement qui me faisait voir mes parents d'une autre façon.
Et un soir, on est parti au cinéma. Et je me rappellerai toujours, on a vu vol au-dessus d'un nid de coucou. Ça se passe dans un hôpital psychiatrique. Et à la fin, il y a un grand indien. Et ce grand indien, il passe par la fenêtre, comme ça. Il s'en va, il casse les carreaux, comme dans la chanson de Brel, moi, les carreaux de l'usine, je vais les casser. Et là, il casse tout, il s'en va, putain, c'est la fin.
Ben, en fait, on n'avait rien vu arriver. Hein. On était assez heureux dans cette vie montpelliéraine. On habitait à la Villa Marguerite. On était dans cette magnifique villa avec un grand jardin.
Et puis, un jour, on est au lycée, au collège, on était au lycée Joffre, en quatrième, avec Cécile. Cécile et moi, on était dans la même classe. On était en cours d'histoire.
Et puis un jour, à la sortie du lycée, il y a Dorothée qui vient nous chercher. Elle venait jamais nous chercher au lycée.
Et puis, donc, il y a Dorothée, fameuse Dorothée, qui est la jeune fille au père, qui vient. Donc, je me rappelle, j'étais à la cantine. Elle s'avance, elle me retrouve parce qu'elle savait pas où j'étais exactement. Elle s'avance et là, je pense que j'ai déjà le sentiment de quelque chose qui est bizarre, qui est une catastrophe, enfin un truc.
Je la vois, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu viens nous chercher? Parce qu'on repartait toujours en vélo ou tout seul. Et puis là, elle dit, il faut que je vous parle, c'est au sujet de votre mère, il y a un truc et tout ça. Donc on a attendu Pascal qui sort du lycée, on a attendu Marianne.
Et là, Dorothée, elle était avec Pascal, qu'elle est allée aussi chercher au lycée, et on va ensemble, elle dit, bon, j'ai un truc à vous dire et tout. Et un peu en silence, un peu sans bien comprendre ce qui se passe, on va manger un sandwich au café de l'Esplanade. Donc on traverse le lycée Joffre, on s'assoit, on boit un café, on commande un sandwich. Jusque là, c'était plutôt sympa, étonnant, marrant.
Je me rappelle bien le café, je me rappelle même la configuration, parce qu'on n'allait jamais dans les cafés. Hein. Et là, elle nous explique que maman était partie avec un autre homme. Et puis voilà. Maman était partie.
Elle vient et puis elle me dit, bon, écoute, Pascal, t'affole pas, faut que je te dise quelque chose. Ta mère est partie, tu vas rentrer à la maison, elle sera pas là et il y aura ton père qui va te dire certaines choses, mais faut que tu aies les deux sons de cloche et ta mère, elle pense à toi, je sais pas quoi, enfin, tu vois, un truc comme ça.
Et elle dit, voilà, quand vous allez rentrer à la maison, ça sera pas tout à fait pareil qu'avant. Parce que vous connaissez Pierre, vous connaissez maman, et elle est partie vivre dans les Cévennes avec lui. Voilà, tout est un peu compliqué. Donc, et j'ai un souvenir génial de ce moment-là, parce que c'était un peu flippant, mais c'était en même temps... Et c'était très intéressant, parce qu'il y avait Pascal, Cécile et moi, qu'on appelait les trois grands, et Dorothée, super... Posé, accueillant les choses qu'on avait à dire. Donc Pascal, il s'est assez rapidement, dans mon souvenir, assez rapidement braqué en disant « Maman, pourquoi elle part? Qu'est-ce que c'est ?» Assez monté au filet contre maman. Cécile, hein, qui avait peut-être des mailles à partir avec papa et tout ça, elle était montée au filet pour maman, en disant « Elle fait bien, papa il est chiant » et tout ça. Et moi, j'étais un peu au milieu et je disais « Tiens, bon, ben, je crois qu'ici, il faut que je comprenne quelque chose. »
Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai pas eu envie de rentrer chez moi. Et c'est là, j'ai pris le téléphone et j'ai dit, Bernard, je ne rentre pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Où tu vas? Ben voilà, j'ai un amant, je suis très très bien, je reste chez lui, je viendrai chercher mes affaires demain. Mais Micheline, mais Mich, tu sais comme disait Bernard. Mich, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, il m'arrive, voilà. Alors je dois compter au téléphone, comme ça. Donne-moi l'adresse. Mais non, je vais pas te donner l'adresse, non. Je viendrai chercher mes affaires. Et j'y vais. Ma petite Austin. Et alors, il était effondré, complètement effondré. Il me dit, mais si, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'était mignon parce qu'il disait, mais c'est moi que tu aimes. C'est moi que tu aimes. Tu peux pas me quitter, tu peux pas faire ça. Oh, il le faut. Il le faut, Bernard, parce que il faut que je fasse l'expérience, disais-je. Il me dit, et ton métier? Oh, ben mon métier, je continue, je le fais, mon métier, j'habite à côté. Et les enfants? Ben, je vais leur expliquer. Et alors, je m'étais installé chez lui.
Effectivement, mon père, dans tous ses états, en pleurs, en disant, oui, elle est partie. Enfin, vraiment, le drame absolu, le cinéma. Enfin, pour moi, j'ai ressenti comme un cinéma. Oui, votre mère est partie. Alors, c'est pas très agréable de voir son père en pleurs, comme ça, on sait pas quoi faire. Donc, comme j'étais quand même averti par Dorothée, ça n'a pas été une surprise, et j'ai pas plongé dans le jeu, quoi, dans la dramaturgie de cette situation. Et je pense que je me suis carapassonné d'un coup, frigidifié, quoi, au niveau de mes sentiments, quoi. Bon, je me suis fermé à ce que je pouvais ressentir.
En même temps, je me suis dit, super, on va être des enfants divorcés, ça va être génial. Parce que on pourra voir notre père et notre mère pour nous tout seuls dans d'autres trucs, qui seront sympas. Finalement, la famille telle qu'elle est, c'est bourgeois. C'était l'époque où il y avait tous les trucs bourgeois et pas bourgeois. Donc, au moins, on allait un peu vivre un peu une aventure dans notre vie, quoi. Donc moi, ça m'avait un peu fait ça. Et effectivement, on était rentrés le soir. Et ce soir-là et toute la semaine qui a suivi, c'était compliqué. Bon, ma mère n'était pas là.
J'allais le soir les voir, veiller à ce qu'ils aient bien mangé, qu'ils aient fait leurs devoirs. Je les bordais et je prenais une voiture et je partais. Voilà. Et puis alors, je les avais invités, au restaurant, un par un, pour leur expliquer. Et là aussi, ça a été très intéressant. Pascal, il était un peu ahuri, comme ça. Oh, si c'est ton bonheur, m'avait-il dit.
Et donc, je vais au restaurant, et pareil, dans un sentiment où je vais écouter ma mère. Et moi, je me souviens, j'ai rien dit, et que ma mère m'a dit, oui, alors je sais pas ce que je fais, est-ce que je reviens ou pas. Et moi, j'ai dit, bah, tu fais ce que tu veux. J'ai senti en moi une force pour dire ça, et puis en même temps c'est parce que j'avais bloqué tous mes sentiments, j'avais bloqué tout ce que je pouvais ressentir, c'était complètement freiné, quoi. Et alors ma mère, après on en a parlé, je me rappelle, elle m'avait dit, oh Pascal, t'as été génial. Alors moi j'avais justement, au contraire, j'avais été rien du tout, j'avais dit, tu fais ce que tu veux. Et c'est comme ça qu'elle l'a vécu sûrement, et elle a dû se sentir, en fait c'était peut-être une stratégie aussi pour la faire revenir, que j'avais adoptée, qui était la meilleure, la bonne, pour qu'elle soit, elle revienne de son plein gré.
Et Cécile? Alors Cécile, ça a été très joli. Je n'avais pas convoqué, on avait un très 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 beau parc. On se promenait dans le parc, et puis je lui ai expliqué, je lui ai dit, voilà, je ne peux pas, il faut que je vive vraiment avec ce garçon. On avait prévu, avec Bernard, un mois d'été au Club Méditerranée. C'était la première fois qu'on leur offrait le Club Méditerranée. Et Cécile, elle avait bien enregistré ça. Mais dis-moi alors, maman, et le Club Méditerranée? Moi, je n'y pensais plus du tout. Oh ben, vous irez au Club Méditerranée. Peut-être que je viendrai aussi. Et maman, s'il te plaît, emmène-moi avec toi. J'ai dit, je ne peux pas, on est dans un studio. Mais les choses, quand je m'en souviens, je dis, mais qu'est-ce que j'étais? Qui j'étais? Bon, en tout cas, tu sais où je suis, je laisse mon numéro au téléphone.
Elle nous a pris chacun à notre tour dans le jardin. On habitait dans une belle villa, la Villa Marguerite. Et on était dans l'entrée de la maison. Et on attendait notre tour. Le jardin était assez grand, donc le tour était assez grand. Et puis on marchait tranquillement, tranquillement. Et quand le tour était fini, eh bien on avait fini de parler. J'étais à notre enfant. Et moi, ce qui me rappelle dans cet événement, c'est que ça me faisait drôle d'être toute seule avec ma mère qui me confie quelque chose. Parce que d'habitude, j'étais rarement toute seule avec ma mère, sauf une fois par an pour aller acheter une paire de chaussures à la rentrée des classes. Et elle me dit qu'elle allait vivre en Allemagne, parce que lui était à moitié allemand, moitié français, je crois. Et moi, je lui dis que je voulais partir avec elle, que comme ça, je pourrais aller la rejoindre et connaître un autre pays pour voyager. Et puis, le tour du jardin était terminé.
Et Marianne n'a rien dit du tout, rien. Elle m'a regardée, elle me dit simplement « Et papa ?» Oh, ben, je dis « Papa, il est assez grand, il a sa thèse. » Travail. Bon. Elle n'était pas très contente.
Elle n'a rien dit, maman. En tout cas, les souvenirs que j'ai, c'est qu'elle revenait à la maison pendant le moment où ils étaient séparés pour chercher du vin, des trucs, pour aller chercher des trucs dans l'appartement. Et là, j'avais l'impression d'une petite fille qui vient tchourer des trucs et pour partir ailleurs. Mais il n'y avait pas de parole. Pas de parole.
Et Sophie, elle, parce que j'allais chercher après, donc, j'allais chercher ma voiture. Il y avait une grande porte cochère. On entrait dans une première cour. C'est là qu'on mettait les voitures. Donc, je sortais, je prenais ma voiture, j'ouvrais le Porsche et tout ça, et je partais. Alors, elle était venue m'accompagner à ma voiture, et elle m'a dit, tu sais, maman, tu es méchante. J'étais frappée par ça. Tu es méchante.
Et maman, elle revenait de temps en temps pour nous voir, l'un, l'autre. Alors là, on avait notre mère pour nous tout seul dans la chambre, parce qu'elle faisait le tour de chacun. À un moment, c'était mon tour, et donc elle est venue dans ma chambre, j'ai une grande chambre, et j'avais pris des verres, que j'avais pris dans le placard en bas, mais ils étaient jolis, je les trouvais jolis, ronds. J'ai dit, écoute, pour ta nouvelle maison, je te donne ces verres. Bon, qui lui appartenaient déjà, enfin bon. Et elle n'a pas voulu, mes verres. Et je crois que je lui en ai voulu énormément parce que je faisais un gros effort pour dire « Ok, c'est d'accord, je comprends, tu veux vivre autre chose, mais s'il te plaît, prends un cadeau, prends un peu de nous. » Et comme elle est pas du tout réceptive ou elle écoute pas, enfin, même si elle était venue pour être avec ses enfants, en tout cas, ça, elle a quand même négligé le truc. Elle m'a renvoyé au plot avec mes verres. Elle dit « Non, mais j'en ai d'autres. » Et quand elle m'a dit « J'en ai d'autres », ça m'a cassé un peu. Et plus tard, j'ai repensé à cet événement, mais très longtemps après, très 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 longtemps après. Et après, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce qu'il y avait 6 verres et c'était un peu nous 6. J'ai dit, bon, tu t'en vas, d'accord, mais prends-nous avec nous aussi. Et ces verres, ils étaient ronds et il y avait quelque chose de... Bon.
Quelques temps après, je me souviens que la vie dans la maison était un peu bizarre et comme si quelque chose était mort dans la maison. Comme si c'était... On n'osait plus trop bouger, trop faire de choses. C'était très calme. La maison était devenue très calme. Je me souviens que dans l'entrée, que papa a pleuré. Alors dans l'entrée, il y avait une table ronde et il y avait un miroir et je voyais mon papa pleurer dans le miroir. Et que papa pleurait et que je ne l'ai pas pris dans mes bras, je n'ai pas pu le consoler. J'avais l'impression qu'il fallait que je fasse quelque chose, que je le prenne dans mes bras parce qu'il pleurait. Et en même temps, comme je ne l'avais jamais vu pleurer, Et comme je ne l'avais jamais vue comme ça, comme si je n'avais pas l'habitude et que je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Et j'ai rien fait. Quel âge j'avais là ? 15 ans, je crois.
Je pense pas que je... Bon, c'est une belle image de mon père. Quoi, parce que... Il pleurnichait, quoi. Donc, moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il était un peu... C'était pas une réaction... Peut-être d'enfant aussi, qui a perdu sa mère aussi.
Ma grand-mère, mamie Louise, elle essayait de faire pression sur moi. Pour dire à ma mère de revenir. Et moi, j'avais pas du tout envie de faire ça. Je suis ma mère, elle est partie. Et je vais pas moi qui vais lui dire de revenir. Surtout que je suis en train de faire des efforts monstrueux pour accepter qu'elle parte. C'est pas pour lui demander de revenir, j'y arriverai pas. Et j'y arriverai pas, puis c'est pas mon truc, quoi. Et ça m'énervait, les pressions de ma grand-mère là-dessus. Et puis, mon père a voulu faire cette pression aussi, entre autres, un jour. Donc il est venu dans ma chambre. Même chambre où ma mère était venue, que je voulais lui donner les verres et qu'elle les avait pas pris. Mon père, il arrive dans ma chambre et il s'est mis à pleurer. Je l'ai pris dans mes bras. Et donc, j'avais 13 ans, j'avais mon père qui pleurait dans mes bras. Je savais pas quoi faire. Et c'était un grand basculement entre l'enfance et plus l'enfance. C'était un grand moment, mais en même temps, c'était un beau moment de tendresse. Vraiment, c'était un moment où j'avais un rôle à jouer, où je pouvais aider, au moins à être là. Et c'était super. Mais après, c'est juste ce moment-là, ça allait. Mais après, il est encore lui, comme ma grand-mère, il a dit dis-lui de revenir. Et là, j'ai pas réussi. De toute façon, c'était difficile, tout confus en moi et tout ça. C'était trop d'émotions. Mais j'ai jamais réussi à lui dire non, moi, je le ferai pas. C'est pas moi qui va faire ce truc-là.
Ah, quand j'y pense. Et puis, en fin de compte, je me suis rendu compte que c'était pas possible, quoi. Que c'était tout à fait possible quand j'avais rien dit, dans la clandestinité, c'était génial. Et à partir du moment où je mettais ça sur la place publique et il fallait faire un choix, je pouvais pas faire ce choix-là.
Ça a pas duré longtemps, cette histoire, en fait. Ça a duré quelques jours. Entre ce moment où on apprend la nouvelle et en fait le moment où elle est revenue, parce qu'elle est revenue 3-4 jours après.
À Montpellier, je sais qu'elle est partie 3 semaines, mais on n'a jamais... si tu veux, on était trop jeunes, hein, Delphine et moi.
Je ne sais pas combien ça a duré de temps, cette histoire. Pour moi, c'était énorme comme temps, mais peut-être que c'est resserré sur 2-3 semaines, je ne sais pas. Le moment où elle est partie, elle n'était pas à la maison, et on était seul avec papa et avec ma grand-mère. Ça a peut-être duré 2-3 semaines, mais en intensité, j'ai eu l'impression que ça avait duré 6 mois, quoi.
Voilà, parce que ça a duré 3 jours. Et après, je me souviens que maman est revenue. Et comme si rien ne s'était passé. Tout est redevenu comme avant. Et on n'a plus jamais reparlé de ça. On ne savait pas pourquoi elle était revenue. Comme si c'était comme un rêve. Ou un cauchemar, je ne sais pas.
Ça dure au moins 10 jours, cette histoire. C'était très très intéressant parce que c'est là... que je me suis réveillée. Parce que cette vie de ce studio, où je le voyais tout le temps, il suivait ses cours, lui aussi, il allait suivre ses cours d'allemand. Incroyable. Et puis on se retrouvait, on dormait ensemble, l'amour, là. Et puis alors il fallait faire les courses, il fallait se nourrir. Jusqu'ici, quand on était en vadrouille, on allait au restaurant, et puis le reste du temps, il était chez lui, moi chez moi. Donc on n'avait jamais vécu ensemble, vraiment. Et c'est là que ça change complètement. Parce que qui va faire les courses, qui fait quoi, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je n'avais pas du tout envie. Avec Bernard, on allait faire les courses tous les samedis dans un géant casino. Et puis après, j'avais ma femme de ménage, ou ma mère, ou Et Bernard, il participait beaucoup au ménage. Il était très homme d'intérieur. Il pouvait balayer, ranger, prévoir ce qu'on allait manger, etc. Ouais. Alors, tout a changé. Et puis, il avait ses copains, que je connaissais pas tous. Ses sœurs, que je connaissais pas du tout. Alors, les parents, eux, il a jamais rien dit. Je me suis rendu compte que là, quelque chose qu'il connaît pas quand même, tu vois, était pas... que j'étais un peu l'intruse quand même. Oui. Mais j'étais tellement belle et jeune que j'étais aussi belle et aussi jeune que ses sœurs. On voyait pas une femme de je devais avoir 35 ans, quelque chose comme ça. 40 peut-être. À peine. Alors, un matin, Pierre était à ses cours. J'ai remis toutes mes affaires dans ma valise. J'ai mis la valise dans ma voiture, mon Austin qui était là. Et puis, j'ai pris ma plus belle plume et je lui écris. Mais je lui dis que c'est pas possible, que je repars Villa Marguerite. Et puis, je vais faire mes cours. Je vais amener ma valise. Et Bernard, alors là, c'est là que j'ai vu que c'était un être particulièrement intelligent. Il était plus âgé que moi, 6 ans d'écart. Il était plus mûr que moi, certainement. Et là, il m'a dit, tu sais, Micheline, c'est très très bien ce que tu fais. C'est ce qu'il fallait faire. On va aller au Club Méditerranée et on va aller faire un voyage. Alors, on a récupéré Delphine, etc. On n'a pas fait de fête. On a fait comme si tout allait bien. Comme si de rien n'était. C'était ce qu'il fallait faire. Bon. Ma mère qui s'est dotée de rien, elle est revenue. Personne n'a rien dit. Les enfants ont été intelligents là aussi, parce qu'ils auraient pu dire, mamie, on a fait ça. Là. Non, ils ont compris que... ne rien dire. On n'a rien dit, ni les uns ni les autres.
Mais non, maman, dire des choses à ses enfants, ça la seule, en essayant de réfléchir, jamais.
Je me rappelle pas, non. Je me rappelle pas de dialogue. Non, plutôt un silence, faire comme si tout devait revenir comme avant, quoi. Je crois que je me suis bien enfermé dans mes... j'ai plus de souvenirs exacts quand elle est revenue. Je me souviens qu'après, j'étais en première. J'ai des souvenirs où elle me faisait réviser le français. Et j'aimais bien ces moments où elle s'occupait de moi. Parce qu'elle me faisait faire. On était sur la table ronde du jardin de la Villa Marguerite. Au soleil.
Mais Pierre, lui, il est devenu complètement fou. Il m'attendait tous les jours à la fac. Il ne voulait pas que je remonte dans ma voiture. Il voulait que je reste avec lui. Il poussait des hurlements. La nuit, il venait errer dans le parc, sous les fenêtres. C'était drôle. C'était très intéressant. C'était vraiment très intéressant.
Et alors là, pour moi, c'était insupportable parce qu'elle est revenue et Pierre, à l'entrée de l'enclos, il était là, assis par terre, pendant la journée et la nuit, quoi. Et il attendait qu'elle sorte. Et donc nous, on sortait, on voyait Pierre, la tête dans ses mains, assis par terre, là, tout ça. Et on l'aimait bien. Et je voulais lui dire, je suis désolée. Ma mère est revenue, c'est con pour toi, mais... Et moi aussi, pour cette aventure avec ma mère, j'ai dit, mince, ils ont raté leur envol, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi... Alors, elle est revenue pour nous. Bon, ben, c'est bien, mais finalement, c'était pas mal qu'elle soit revenue. Moi, ça m'a arrangé quand même, hein. Mais je m'étais préparée psychologiquement à pouvoir affronter un truc qui irait dans un sens inconnu. Puis là, bof, ça revenait.
Et alors, à la rentrée, évidemment, ça a recommencé, la fac, etc., etc. Et puis, c'est là qu'il m'a dit, on ne peut pas se quitter comme ça, pas possible. Je me suis inscrit à la chorale Saint-François, et cette année-là, c'était la Passion selon Saint-Matthieu. Et alors Pierre me dit, ce serait bien qu'on participe à cette œuvre. Bon, alors finalement, on a trouvé une espèce de... C'était très, très enfantin, très romantique. On avait besoin d'une grande chose, je comprends, pour se séparer vraiment. Et là, la séparation était d'autant plus imminente que l'année suivante, Bernard était nommé à Paris, à l'Université de Paris. Il avait passé sa thèse brillamment, etc. Et il m'avait trouvé un logement à la Fondation Deutsche Meurthe, à la cité universitaire. Voilà, alors ce Pierre, on a chanté la dernière, et ce jour-là, Bernard était parti pour un colloque, je ne sais pas où, donc il n'était pas là, et les enfants, les 5 enfants, Dorothée, sont venus au spectacle. On s'est séparés, il avait sa voiture, j'avais la mienne, j'avais mes enfants. Il y a eu, à la fin de ces spectacles, on se réunissait tous dans un grand café de la place de la Comédie à Montpellier, et on buvait, on a bu chacun de son côté, tout seul. Et puis on ne s'est plus revus du tout, du tout. Jusqu'au jour où, 10 ans après, en 87, un jour, un mercredi après-midi où je faisais répéter un Beckett en attendant Godot, là, je jouais carrément une grande, grande tirade d'un des personnages. Je me relève et quelqu'un dans la salle applaudit. C'est dans le noir. C'était Pierre. Alors, là, j'ai eu un moment étrange. Parce que ces textes de Beckett, c'est très profond, tu vois, c'est vraiment, c'est très métaphysique. Là, j'ai l'impression qu'on jouait du Beckett encore, là, avec cette histoire. Bon, et puis, très décontracté, il m'a dit bravo, tu étais la meilleure. Et il m'a dit, voilà, je suis venu, je suis à Paris en ce moment parce que j'ai été reçu à l'écrit de la grève. Et je viens passer les oraux. Bon. Alors on va boire un pot. Alors il recommence son cirque, c'est toujours aussi belle, nanana. Mais moi, j'en avais un peu assez. J'ai dit, oui, bon, ça c'est du passé et tout ça. Et puis, il a repris son métro, et voilà.
Sur ce, bon, il y avait ce personnage, effectivement, son amant, ce Pierre. Mais moi, ce Pierre, je l'ai pas trop en mémoire. C'est un personnage un peu un grand brun avec une petite barbiche, un peu un Rasputin, je vois ça quoi. Et effectivement, c'était lui le responsable un peu quelque part. Hein. Il avait emmené ma mère et ma mère avait découvert l'amour physique sûrement. Bon, c'était son amant quoi. C'était un amant sûrement érotique et sensuel et tout ça.
Je lui ai demandé si elle l'avait revu et elle m'a dit oui. Elle m'a raconté. Je lui ai dit alors comment ça s'est passé quand tu l'as revu. Elle m'a raconté ça d'une façon très légère. Oh, je l'ai revu, on est allé se promener, on a pris un pot, on a marché sur le trottoir, on a raconté un peu notre vie, et puis elle s'est aperçue qu'il n'y avait rien de... Elle ne comprenait pas pourquoi je lui posais cette question, comme si c'était rien.
Dans la suite des années, on a pu parler avec ma mère. J'ai transformé ces souvenirs compliqués où... Ils étaient riches, mes souvenirs, déjà. Je les appréciais tels qu'ils étaient. Mais je me suis tournée vers l'idée que... Enfin, l'évidence que c'était une histoire d'amour et une belle histoire d'amour entre Pierre et ma mère. Et ça m'a fait du bien et ça m'a fait plaisir pour ma mère de savoir qu'elle avait... pu être la femme qu'elle pouvait être, et surtout j'ai pensé beaucoup à Pierre, à cette passion pour ma mère. J'ai trouvé magnifique qu'un homme elle aime comme ça pendant 8 ans, et puis qu'après il veuille la retrouver, la revoir, qu'il se passe, enfin, et même là je pense à lui, j'aimerais bien le voir, parce que j'ai l'impression qu'il a joué un rôle dans notre vie, qu'il existe comme derrière, comme pas un fantôme parce que c'est un homme vivant, mais comme personne qu'on aurait aimé connaître, qui aurait pu peut-être être quelqu'un, un beau-père, ou... je sais pas.
Et un jour, il m'a téléphoné. Il m'a téléphoné en me disant, voilà, je suis reçu. De la grève. Oh. Oui, je pars fêter ça à Montpellier chez mes parents, et puis je vais continuer, je vais faire une thèse. Et il m'a dit, je vais faire comme Bernard, je vais être prof d'université comme Bernard. Et là, je passe tout l'été en Allemagne dans une université allemande, je serai comme Bernard.
Regard croisé sur une mère en cavale de Théo Boulanger. Merci à toute la famille pour nous avoir confié leurs souvenirs. Merci à Samuel Feller et Marina Gatto. Composition originale Théo Boulanger. Réalisation Gilles Mardi-Rossian. Attaché d'émission Chouchane Djergagan. Productrice coordinatrice Irène Omelianenko.
Non, mais je me rends compte en effet que pour les enfants, il a dû se passer pas mal de choses dans leur esprit. Mais moi, je... Non, je ne m'attriste pas. Comme ça. Je regarde les choses en face. Sans nostalgie et sans culpabilité. Voilà. un voyage comme un autre. Un voyage aux îles, du vent.
Cette émission est disponible en écoute et podcast sur le site de France Culture. Demain, ce sera Bribes sans abri, un atelier de création radiophonique de Franck Larose.